France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
On a trouvé un vaccin contre le Covid en moins d'une année. Merci qui ? Merci la recherche, bien sûr, mais merci les souris, merci les hamsters, merci les furets, merci les primates, premiers de cordée à leur manière. Et pourtant, quand on pose la question aux Français que nous sommes, l'idée même de l'expérimentation animale provoque des réactions assez épidermiques. 62% des Français y sont opposés par principe, c'est ce que dit un nouveau sondage Ipsos commandé par les scientifiques du GIRCOR. Mais dans le même temps, et dans le même sondage, on considère à 74% que le recours aux animaux est nécessaire à la recherche médicale. Le taux de confiance dans les chercheurs pour veiller au bien-être animal est assez partagé, autour de 50%. Ce qui ressort avant tout, c'est que nous sommes très attachés bien sûr aux animaux. C'est un marqueur d'époque, sensible à la cause animale. On le voit dans tous les sondages, celui-ci comme les autres. Ce que disent également ces chiffres, c'est que nous sommes très ignorants de ce que recouvre la recherche animale. Combien d'animaux sont utilisés? Quels sont les animaux utilisés? Dans quelles conditions vivent-ils dans les labos? Quels sont les protocoles obligatoires? Le déficit d'information, il est énorme et c'est à cela que nous allons essayer de nous atteler ce soir, bien comprendre et poser aussi la question première. Y a-t-il une autre solution? Une solution in vitro qui mettrait au fond tout le monde d'accord? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Flavie. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Flavie.
Moi, je me permettais de vous appeler parce que ce qui me choque déjà dans votre présentation, bon, merci de prendre mon appel, c'est que vous dites que, en fait, c'est obscur pour le grand public. Moi, je suis expérimentateur animal et je suis pas d'accord avec ça. C'est énormément encadré comme procédure et je remplis, dans une partie de mes projets, un paragraphe destiné au grand public où j'explique sur quoi je travaille, pourquoi je le fais, combien d'animaux je vais utiliser, quelle espèce d'animaux je vais utiliser, et ensuite, comment je fais pour respecter le bien-être et limiter la douleur et la souffrance chez ces animaux.
Alors, je maintiens ce que je dis quand même, Flavie, si vous le permettez, parce que vous faites bien de nous dire que vous mettez ce document à disposition. Je suis assez curieuse de savoir combien de personnes savent que ce document est à disposition. J'ai quand même une question pour vous. Vous avez une voix jeune quand même. Est-ce que vous avez vu ces protocoles, justement, augmenter au fil de votre carrière? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, tout cela est encore plus réglementé que ça l'a été? Comment vous vivez ça, vous?
Moi, je vois que surtout au niveau des procédures, admettons qu'il y a 5 ans qui pouvaient être autorisées, maintenant, il y a une vraie régulation. Ça veut dire que vous avez des pratiques. Dès qu'on a une alternative moins douloureuse, on nous demande de l'appliquer et elle devient obligatoire.
Qu'est-ce que vous ne faites plus, Flavie, par exemple, que vous faisiez il y a encore 5 ans?
Par exemple, ça va paraître un peu barbare peut-être pour les gens qui sont pas habitués, mais pour identifier des rongeurs, classiquement, une pratique qui est encore courante dans beaucoup de pays européens, c'est de couper couper des phalanges. Ça permet d'identifier les animaux. Maintenant qu'il y a des systèmes de puces, à partir du moment où un laboratoire dispose de ce système, et même il est largement encouragé par les comités d'éthique qui régulent tout ça, d'utiliser ce système et d'arrêter ce système de marquage. Ou alors on va utiliser quelque chose de non-invasif, type peinture ou ce genre de choses.
Et donc on voit bien que ça bouge d'année en année vraiment. Je vous remercie beaucoup Flavie pour cette entrée en matière pour discuter ensemble autour de ce sujet jusqu'à 20h. François Moutou est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vétérinaire. Vous êtes membre du comité scientifique du GIRCOR. Vous avez écrit notamment des épidémies des animaux et des hommes aux éditions Le Pommier. Yvan Balançard est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vétérinaire au CNRS, président du GIRCOR, et Sophie Béchard est avec nous également. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des sciences à France Inter. François Moutou, c'est important ce qu'elle dit, notre amie Flavie, sur l'immensité des protocoles. Enfin, je veux surtout pas que les gens qui nous écoutent, effectivement, imaginent qu'on fait tout et n'importe quoi à l'intérieur des labos.
C'est très intéressant. Il y a deux niveaux. Il y a effectivement le fait que c'est très compliqué. J'ai un schéma sous les yeux. Enfin, je sais pas si on est à la radio, donc ça passe pas très bien.
Mais je vois bien qu'il s'est l'air de là où je suis, ça a l'air très compliqué
entre deux ministères au moins dans le cas des animaux de laboratoire. Mais c'est vrai aussi que c'est un sujet dont on ne parle pas facilement à table, soir, entre amis.
Certes, oui.
Et du coup, on a l'impression qu'il y a aussi une retenue à tous les niveaux, parce qu'on ne sait pas comment l'autre à qui on va en parler pourrait l'accepter. Et ça va jusqu'au niveau des administrations, qui effectivement ont rendu, et c'est intéressant, un espace où on peut mettre, on doit mettre, pour tous les programmes de recherche utilisant des animaux, un résumé grand public vulgarisé qui permettrait à tout un chacun de savoir ce qui se passe, comme l'a expliqué Flavie. Mais en même temps, quelque part, on a l'impression que pour certains, moins on en parle, mieux c'est. Et en fait, un des grands enjeux, et peut-être qu'on en parlera, c'est une notion de transparence partagée pour que les gens comprennent ce qui se passe, pourquoi on fait ça, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire autrement si on doit faire autrement. Mais il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais il faudrait aujourd'hui accepter de trouver une enceinte dans laquelle ces discussions puissent se faire de façon assez apaisée. Il y a des informations à donner, mais il faut aussi que les gens qui sont là acceptent d'écouter.
Mais Yvan Balançard, est-ce qu'on parle de transparence ou est-ce qu'on parle simplement de savoir quelles sont les infos à disposition? Parce que moi, j'ai le sentiment, en écoutant Flavie, que la transparence, elle est là, puisque tout cela est censé être public. Encore faut-il que nous sachions, nous, comment aller le chercher et où aller les chercher, ces informations, en fait. Peut-être qu'il faudrait que le grand public le fasse, d'ailleurs.
Oui, alors, c'est tout l'enjeu de la transparence, hein, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'information. L'information, elle existe aujourd'hui partiellement, notamment les résumés non techniques dont parlait Flavie sont disponibles sur le site du ministère de la Recherche. Donc tous les résumés non techniques de tous les projets qui utilisent des animaux aujourd'hui en France sont à disposition de tous les citoyens sur le site donc du ministère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peu de gens sont au courant. Et donc l'enjeu de la transparence, c'est aussi de faciliter l'accès à ces informations. Ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens dans le témoignage de Flavie, c'est aussi la frustration des scientifiques, des animaliers, des vétérinaires, de toute cette communauté qui travaille avec respect avec les animaux quand ils sont confrontés à ces images et à cette mythologie qui a été savamment tissée par des associations animalistes et qui stigmatisent la question et qui font que aujourd'hui, en effet, c'est un sujet difficile. Et il est temps vraiment de le reprendre en main et de favoriser justement le dialogue et de donner l'information nécessaire pour que effectivement tout le monde puisse faire une opinion basée sur des faits objectifs.
Mais quand on
dit, je crois que c'est très important.
Quand on dit qu'il est temps, François Moutou, est-ce que ça veut dire que désormais ça devient plus compliqué? Vous avez le sentiment que les lois vont être beaucoup plus contraignantes et que la recherche risque d'en être entravée? Est-ce que c'est ça votre inquiétude?
Bah, écoutez, moi je ne suis pas forcément inquiet, mais en tout cas ce qui est vrai, c'est que depuis 2010, il existe une directive européenne qui cadre tout ce qui se passe en Union européenne et donc en France. Et la France a appliqué en 2013 cette directive. Et le premier point de la directive, c'est de dire on va arrêter d'utiliser des animaux pour les expérimentations dès qu'on pourra faire autrement. Donc le point numéro un, c'est de dire on va arrêter, mais évidemment, virgule, dès qu'on pourra faire autrement. Donc l'objectif, il y a bien arrêté, c'est affiché comme ça. Et régulièrement, il y a des retours de la part de différents partenaires, de différents acteurs sociaux qui voudraient qu'on aille plus vite. Mais pour l'instant, malheureusement, on vit une histoire en ce moment contemporaine que personne n'avait encore jamais vécue, enfin de nos générations, qui montre que on ne sait pas encore faire autrement.
Sophie, je ne vais pas vous piéger. De ce que j'en sais, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils arrêtaient l'expérimentation animale d'ici à 2025. Est-ce qu'on connaît un autre pays qui a arrêté intégralement l'expérimentation animale? Ça existe?
Il y a déjà des domaines où c'est interdit. C'est le cas des cosmétiques.
Absolument.
Et récemment, l'ECHA, l'Agence pour les produits chimiques, voulait réintroduire l'utilisation d'animaux et ça a été refusé, y compris par les industriels. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être parmi les Européens des pays un peu plus en avance que d'autres. Non pas dans la manière d'utiliser, mais dans la réduction. Est-ce que vous diriez ça,
Yvan Balançard, peut-être, parce que j'ai entendu que vous vouliez répondre, donc allez-y, pardon.
Oui, peut-être juste préciser que les Pays-Bas ont en effet, il y a quelques années, en 2016, annoncé qu'ils allaient arrêter l'expérimentation animale, et puis ils sont revenus sur cette décision qui était quand même très risquée, en se rendant compte que c'était un objectif qui était inatteignable.
2025, donc, en fait. Moi, j'avais lu 2025, mais est-ce que j'ai...
Oui, mais en fait, ils sont revenus là-dessus. Hein, ils sont revenus sur cette décision d'arrêter en 2025, parce que, en fait, de manière sensée, il est impossible aujourd'hui de pouvoir continuer à faire progresser la recherche et la médecine, qu'elle soit humaine ou vétérinaire, sans l'utilisation d'animaux. Et donc, les Pays-Bas ont fait marche arrière en précisant qu'ils allaient effectivement renforcer les contrôles, mais que aujourd'hui, cet objectif qu'ils s'étaient fixé à cette échéance de 2025 n'était pas atteignable.
Je vous ai coupé, François Mouton, pardon.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on pouvait, entre pays, jouer chacun un peu différemment, y compris au sein de l'Union européenne. On a malheureusement beaucoup d'autres exemples, mais nous sommes sur une planète unique. Et on sait qu'il y a des pays dans lesquels les réglementations sont très très différentes. Et il y a parfois, on a délocalisé pas mal de choses. Et parfois, on délocalise la recherche, en particulier tout ce qui a trait aux primates. Et c'est un vrai sujet aussi, ça. C'est un vrai sujet entre nous, et enfin entre scientifiques. Comment accepte-t-on qu'on aille faire ailleurs ce qu'on ne peut pas faire chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Est-ce qu'au niveau des publications, puisque maintenant les publications dans lesquelles des animaux ont été utilisés pour obtenir des résultats, demandent qu'on ait les références éthiques des comités qui ont validé tout ça? Et ça peut être aussi une façon d'harmoniser les choses.
Vous avez partiellement répondu à la question de Patrice sur franceinter.fr qui dit « Y a-t-il des pays modèles plus vertueux en matière d'expérimentation animale ?» Vous y répondez partiellement, parce que ceux qui sont vertueux, potentiellement, donc vont faire des expériences chez les autres, en fait.
Ben voilà, donc c'est pas forcément... Enfin, pas tous, bien sûr, hein, mais voilà, c'est possible, en tout cas.
Roland est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, merci de prendre mon appel.
Allez-y,
parce
Roland.
Que moi, j'ai travaillé pendant 4 décennies sur l'expérimentation animale, donc je suis retraité depuis 9 ans. Et d'abord, l'expérimentation animale a énormément évolué depuis les années 80-90, 2000-2010. Donc ça, c'est une évidence. Dans mon domaine, on s'est mis au goût du jour très rapidement parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Ce que je sais depuis mon départ en retraite ou quand on a des mouvements expérimentation animale, on n'est pas forcément très fier d'avoir travaillé là-dessus. Le Covid m'a considérablement rassuré parce qu'il y a beaucoup de réponses de par la recherche vétérinaire dans la transmission du Covid. Et là, j'aurais voulu en donner quelques éléments.
Rapidement, s'il vous plaît, Roland. Le premier élément,
c'est la pression de l'infection. On n'a pas du tout parlé de la pression de l'infection dans le Covid, et en expérimentation animale, on arrive à très bien la mettre en évidence. Le deuxième élément, c'est la notion de transmission des contaminants en expérimentation animale. On arrive à très bien travailler dans ce domaine-là, notamment tout ce qui est contact direct ou contact indirect. Là, on a des différences qui sont énormes, ce qui permet de justifier l'importance des mesures barrières. Et ça, c'est fondamental dans la gestion du Covid, et on ne le dit pas suffisamment. Dès qu'on va ouvrir une fenêtre, on va diminuer la pression de l'infection. Parce que pour rendre un animal malade, il faut énormément de virus. Nous, dans les domaines que je travaillais, où je travaillais, si vous voulez, il fallait toujours un minimum de 10 puissance 4 à 10 puissance 5 particules virales pour rendre un animal malade.
Roland, pardon de vous interrompre. Est-ce qu'il y a une question au bout, ou est-ce que je peux dévier vers nos invités autour de ce que vous êtes en train de nous expliquer?
D'accord. Je reste disponible si vous avez d'autres questions.
Eh ben, c'est avec grand plaisir. Merci vraiment beaucoup, Roland. Il y a deux choses que je retiens dans ce que nous dit Roland. D'abord, on va parler Covid ensemble, François Mouton quand même. Mais il a eu cette phrase au début que j'ai relevée. Il a dit quand même au début, on n'est pas très fiers. Et puis après, ça s'arrange. Là, en l'occurrence, c'est le Covid qui remet ce monsieur dans son envie. Mais cette phrase qui dit quand même au début, on n'est pas très fiers.
Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure. En début, en fait, il se trouve que j'ai fait des entretiens avec des personnes qui manipulent des animaux dans des laboratoires en France. Et on a fait des entretiens libres pour un petit peu percevoir à la fois ce qu'ils faisaient, en pensant aux animaux, mais également en pensant aux humains, parce qu'il y a évidemment une relation de travail entre les deux. Et si on veut que les animaux aillent bien, il faut que les humains aillent bien aussi. Et une question qu'on leur posait régulièrement, c'était « Est-ce que vous parlez de votre travail le soir en rentrant à la maison ?» Et ou « Est-ce que vous parlez de votre travail avec des amis ?» Et les gens disaient toujours « Si on ne les connaît pas bien, on n'en parle pas. » Imaginez des gens qui, que vous rencontrez autour d'une table, dans une ambiance assez gaie, et vous n'osez pas dire ce que vous faites. C'est pas très confortable. Et pourtant, c'est un travail qui est demandé par la société, dont nous bénéficions tous. Et qu'il faut aussi que, bien sûr, à partir du moment où tout se passe bien, et c'est presque toujours le cas, on respecte aussi les gens qui font ce travail pour les autres.
Monsieur Balançard, Yvan Balançard, qu'est-ce que le Covid nous a appris en termes d'expérimentation animale? Je vais même le reformuler différemment. Est-ce que le Covid a même réhabilité d'une certaine façon l'expérimentation animale? Parce qu'en préparant cette émission, j'ai lu que on avait utilisé des souris, on avait utilisé des furets, on avait utilisé des primates. Enfin, j'ai l'impression qu'on a utilisé la moitié de la jungle pour ce vaccin.
En fait, on a effectivement utilisé de nombreux modèles qui ont permis de comprendre déjà le mécanisme de la maladie et ensuite de pouvoir mettre au point des vaccins dont on bénéficie aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que ça a permis aussi de voir à quel point toutes ces approches-là étaient complémentaires. C'est-à-dire que dans cette crise du Covid, on a utilisé des modèles animaux et vous avez cité effectivement le cas...
Souris, hamster, furet, primate, c'est ce que j'ai lu.
Oui, exactement.
Copitec et babouin.
Mais ça a également été l'occasion de travailler sur des, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur des organoïdes, sur des organes sur puce,
ouais.
Et de montrer que finalement tout ça c'est dans le cadre d'une recherche intégrée. Il n'y a pas d'opposition en fait entre les modèles animaux, l'expérimentation animale et les méthodes qu'on appelle alternatives. Et d'ailleurs, il faut bien voir que tous les organismes de recherche qui travaillent sur ces méthodes dites alternatives, hein, que ce soit, j'ai cité les organoïdes, les organes sur puce ou toutes les méthodes dites in vitro, bien ce sont les organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, le CEA, l'Institut Pasteur ou l'industrie pharmaceutique. Donc il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, ce clivage qui est un petit peu monté en épingle par certaines associations pour simplifier le débat et pour créer en fait des dissensions, il n'existe pas. Et donc le Covid, ça a été vraiment un bon exemple de montrer que toutes ces approches-là sont importantes, toutes ces approches-là sont complémentaires, et de voir aussi que si on n'avait pas eu recours à des modèles animaux, et y compris à des modèles de singes, de macaques, hein, qui ont permis de vraiment de comprendre le fameux orage cytokinique et tout le développement de cette maladie, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à endiguer quand même, comme on le fait aujourd'hui, cette crise sanitaire absolument exceptionnelle.
Comment on sait, François Mouton, comment ça marche, en fait, réellement? Comment on se dit, il faut d'abord que j'essaye ça sur une souris, voilà ce que je verrais. Pourquoi est-ce que ce qu'on voit sur la souris est immédiatement transposable sur ce qu'on pourrait potentiellement voir à l'homme? Quelle est cette proximité incroyable qu'on a avec ces tout petits machins?
En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la vie est un phénomène unique dans son histoire sur Terre. Et que ce qu'on soit virus, alors, j'ai jamais été virus, mais enfin, qu'on soit virus, qu'on soit souris, qu'on soit insecte, qu'on soit humain, on a les mêmes vingtaines d'acides aminés, on a les mêmes acides nucléiques, on a les mêmes nucléotides, et tout ça marche avec le même mécanisme. Alors tout n'est pas transposable, et la souris c'est un animal qui, c'est celui le plus largement utilisé. En France, on utilise les derniers chiffres du ministère de la Recherche, c'est 2019, 1,8 million d'animaux, toutes espèces confondues, il y a plus d'un million de souris. Donc le reste c'est beaucoup moins, les primates c'est moins de 2 pour 1000 par exemple. Mais la souris est un animal assez facile d'accès, assez bien connu, et qui permet de faire un premier essai. Il n'est pas sûr que ce soit retransposable à un autre animal, mais c'est sans doute le plus facile, et également il y a aussi une question de coût. On ne commence pas par quelque chose de très très cher si on n'a pas la certitude que ça puisse donner quelque chose. Et après, on peut par analogie se rapprocher, sachant qu'on a le choix entre des animaux qu'on connaît très très bien, mais qui sont un peu différents des humains, ou bien les primates. Nous sommes des primates, évidemment on partage plus avec d'autres primates qu'avec des rongeurs. Après, c'est un choix éthique aussi.
Est-ce que vous avez des animaux interdits, justement?
Ah oui, les grands singes, par exemple.
Voilà.
C'est fini depuis des années. Donc, en toute l'Europe, c'est totalement fini. Et donc, ça, je ne connais pas d'exception récente avec ces espèces-là.
Et c'est tout. Moi, j'ai lu quelque part une histoire même de céphalopodes, par exemple.
Alors, les animaux qui sont autorisés sont des vertébrés. Donc, on a des mammifères, des oiseaux. Et chez les invertébrés, qui est un monde gigantesque, les seuls pour lesquels il faille une autorisation et les protocoles dont on commence à parler, ce sont les céphalopodes. Parce qu'on pense qu'ils ont un système nerveux suffisamment développé pour ressentir pas mal de choses.
De la douleur, de la souffrance et même, paraît-il, de l'angoisse.
Sont des animaux, les plongeurs en ont déjà rencontré, c'est vraiment des animaux qui ne laissent pas indifférents. Quand on croise le regard, peut-être même dans un aquarium, même si c'est moins rigolo pour l'animal derrière la vitre, ce sont vraiment des animaux tout à fait impressionnants.
Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Oui, alors moi, désolé, encore un auditeur qui est du côté des scientifiques.
Mais vous êtes tous réunis là, j'ai l'impression. Ah ouais. Mais allez-y, je vous en prie.
Mais en même temps, c'est intéressant. Je voulais juste rebondir sur votre sondage que vous citiez en introduction. Il y a une certaine hypocrisie du grand public, enfin, c'est-à-dire de vous, de moi, à ne pas reconnaître qu'il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Et aujourd'hui, on parle de recherche animale en voyant effectivement la souffrance animale, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, mais en même temps, on ne peut pas accepter de dire que mon enfant va avaler un médicament qui va le rendre malade, etc. Donc, sur des principes de précaution tout à fait légitimes, Ce que je voulais souligner, c'est que en fait, les normes n'ont fait que aggraver cette situation, aggraver dans le sens utilisation de plus en plus importante. Je suis dans ce métier également, donc voilà. Et depuis que je pratique donc dans l'enregistrement des médicaments, les normes, les lignes directrices ne font que demander de plus en plus d'animaux. Il y a une frilosité des agences à reconnaître, même sur des molécules très connues, une certaine connaissance de fond qui fait que aujourd'hui, il faut tout redémontrer, donc réutiliser d'autres animaux. Et ça, c'est effectivement préjudiciable. Mais en même temps, c'est le besoin légitime des gens. C'est le législateur qui a voulu ça. Les conventions, les commissions ont émis des textes qui font que on veut plus de sécurité, plus d'efficacité. Donc voilà, c'est aussi un paradoxe que je voulais souligner.
Merci beaucoup pour votre appel. Yvan Balançard, d'ailleurs, si on pouvait donner des chiffres, est-ce qu'on sait ce que ça représente, l'expérimentation animale? Est-ce qu'on sait, pardon de le dire comme ça, qu'il y a 15 000 souris tous les ans qui sont expérimentées ou qui meurent, 18 primates ou un peu plus? Enfin, est-ce qu'on peut donner ces chiffres?
Alors les chiffres sont aussi publics sur le site également du ministère de la Recherche que je vous invite à consulter. Donc aujourd'hui, comme le disait François tout à l'heure, on est chaque année à peu près à autour de 1,8 million d'animaux qui sont utilisés. Avec 60% de souris, un million à peu près de souris qui sont utilisées. Viennent ensuite les poissons qui sont très utilisés. À peu près
13%. Oui, c'est fou, ça, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai découvert ça. J'ai vu que les poissons étaient poissons d'hiver. J'ai beaucoup aimé ça.
Poissons, oui, tout
d'hiver.
À fait. Alors, poissons d'hiver, ça,
pêche du jour.
Ça, c'est un petit peu un petit problème d'administration parce qu'en fait, il y a plusieurs espèces de poissons. Et alors, n'ayant pas listé tous les poissons, l'Europe a mis poissons d'hiver.
Bon. Mais qu'est-ce qu'on expérimente? Parce que sur la souris, je peux comprendre. Je vois ce que c'est qu'une injection dans une souris, sur un primate encore plus, mais un poisson.
Alors les poissons, il y a un éventail absolument extraordinaire qu'on peut faire, en particulier sur le poisson zèbre qui est un petit peu devenu la star des laboratoires depuis une quinzaine d'années.
C'est le tout petit.
Parce que
est-ce que c'est Nemo?
Oui, alors c'est pas Nemo, c'est un peu moins coloré que Nemo.
Il y a François Moutot qui me fait non avec la main.
non, c'est moins coloré, mais l'intérêt c'est que ce sont des poissons dont les larves sont transparentes et donc ça permet d'assister en fait en direct au développement des organes à travers ces larves transparentes. Et donc ça a effectivement conduit à énormément de découvertes sur le développement. Et puis, il faut rappeler aussi que les poissons ont une capacité qui est formidable, que n'ont pas les mammifères, c'est celle de régénérer les organes et en particulier du tissu cardiaque. Et donc aujourd'hui, on se sert de ces capacités des poissons dans le cadre de la médecine régénérative pour essayer de comprendre et peut-être de s'inspirer de ce que font les poissons pour un jour, pourquoi pas, régénérer des membres amputés ou des organes qui sera affecté. Alors, juste pour terminer l'éventail, on a parlé des poissons, on a parlé des rongeurs. Les espèces, en fait, qui sont vraiment stigmatisées, c'est-à-dire que l'on met toujours en avant et qui sont, encore une fois, qui sont importantes, mais que l'on met toujours en avant, ce sont les chiens, les chats et les primates qui, tout réunis, représentent moins de 0,3-0,4% des animaux utilisés. Et si vous prenez les chats, par exemple, aujourd'hui, qui représentent 0,05% des animaux utilisés, ils le sont quasi exclusivement dans le cadre de la médecine vétérinaire. Mmh. C'est-à-dire que si on interdisait aujourd'hui le recours aux chats, qui servent comme animal modèle pour développer...
C'est des médicaments pour chats, en fait.
Ah, absolument, c'est des vaccins pour les chats, c'est des médicaments pour les chats. Voilà. Donc il y a vraiment une méconnaissance, et on le voit d'ailleurs, vous parliez des grands sages, vous avez 60% des Français qui pensent qu'aujourd'hui, encore en France, on utilise des chimpanzés. Alors que, comme le disait François, ça fait 20 ans qu'en Europe, il n'y a pas eu un seul grand singe utilisé. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment un décalage entre ce qui est cru, ce qui est perçu, et puis la réalité.
Sophie, rapidement.
Alors, je voulais juste signaler que, par ailleurs, depuis une quinzaine d'années, il existe une association qui tente à réhabiliter certains des animaux de laboratoire et qui a permis d'en adopter ou qui donne une retraite à certains de ces animaux dans des refuges.
Parce que, par exemple, si on parle des 0,05% de chats, j'imagine que le pourcentage de chiens doit être à peu près équivalent. Donc, ces animaux dont on dit qu'ils sont domestiques, qui sont vraiment des animaux domestiques.
Les chiens, c'est un tout petit peu plus, parce que c'est 0,5 pour 1000 pour les chats et c'est 0,26% pour les chiens.
Mais François Moutou, est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que on est d'accord que c'est des chats qui et des chiens qui survivent.
Ça peut dépendre. Il peut y avoir des expériences. Il y a les 4 protocoles possibles de sévérité croissante. Et il peut y avoir des protocoles qui se terminent par la mise à mort de l'animal. C'est possible. Alors, j'espère que dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est tout à fait encadré et ça peut être une issue pour ces expériences.
Monsieur Balançard, rapidement, on retourne au standard juste après vous. Allez-y.
Oui, pour reprendre justement ce que disait Sophie Becherel par rapport à la réhabilitation, le GIRCOR a justement un partenariat avec le Graal, qui est une association qui replace des animaux de laboratoire et donc en particulier des chats. Hein, de nombreux chats, en fait, qui sont utilisés dans le cas de développement de vaccins, eh bien, sont ensuite remis à l'adoption dans des familles. Mais c'est le cas aussi pour des moutons, c'est le cas aussi pour des chevaux, c'est le cas également pour des chiens. Et puis, plus récemment, on est arrivé, et c'était plus difficile, à réhabiliter des singes dans des refuges. Et donc, c'est quelque chose qui est assez nouveau, d'abord culturellement, et aussi parce que la directive européenne de 2010 le permet. Et donc, c'est quelque chose qui est maintenant est très encadré par la réglementation et qui était beaucoup plus marginale auparavant.
Voilà, le standard est en train de faire mentir doucement notre dernier auditeur. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais témoigner. Bon, déjà, je suis complètement contre l'expérimentation animale qui est une torture organisée. Mais je voulais aussi témoigner du fait que j'ai recueilli, moi, une chatte de laboratoire qui est décédée maintenant, mais je l'ai recueillie il y a une quinzaine d'années. Voilà, je vais vous raconter très vite comment ça s'est passé. Je vais pas.
Il y a une quinzaine d'années, vous avez dit, pardon, Christine.
Il y a une quinzaine d'années, oui, okay. Il y a une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, je ne sais pas très bien dater. Mais bon, je l'ai récupérée, elle avait 4 ans, grâce à une association dont je tairai le nom parce que ça s'est fait de façon tout à fait officieuse. C'était l'hôpital Bichat. Alors lui, par contre, je vais le nommer, qui a appelé via une infirmière. Qui a appelé l'association pour dire voilà, on arrête les expérimentations sur les chats et les chiens. On a 3 chattes qui partent à la piqûre. Si vous venez les chercher par la porte de derrière, on vous ouvre la porte de derrière. Moi, j'ai récupéré la plus traumatisée des 3. Elle était vraiment dans un état mais lamentable de traumatisme. C'est-à-dire qu'il m'a fallu un temps infini de patience et d'amour pour l'adopter, en fait, réellement. Et je veux dire, elle est passée d'un numéro à un nom, je lui ai donné un nom, elle s'appelait Erifil, du nom de la jeune prisonnière qui est de racine de la maladie Iphigénie. Elle était vraiment dans un état lamentable. Elle ne me faisait confiance qu'à moi.
J'entends, Christine, ce que vous dites et le trauma du chat aussi. Moi, j'ai 2 questions pour vous. François Moutou, d'abord, et sans minimiser ce que nous raconte Christine, c'était il y a 15 ans, peut-être un peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, Christine pourrait raconter la même histoire?
Ben, j'espère que non, mais on est tous d'accord que des grands progrès ont été faits justement au tournant du 21e siècle et cette directive de 2010 a quand même changé le texte précédent qui datait de mémoire de 1988 et qui était quand même beaucoup plus laxiste par rapport à l'intérêt des animaux.
Les animaux, comme les souris par exemple, ce sont des souris qui sont élevées pour être des souris de laboratoire, en fait.
Tout à fait. Voilà. Alors, ouais, y a des souris d'ailleurs qui ont des destinations assez curieuses. Je me permets de le citer parce que c'est moins connu, mais il y a des souris qui terminent comme nourriture pour serpents et qui sont congelées. Et il faut imaginer que le volume de ces souris dans un pays comme la Grande-Bretagne, pour lesquels j'ai trouvé les chiffres, c'est l'ordre de grandeur des souris pour la recherche. Et donc, d'un point de vue, si on prend le point de vue des souris, est-ce qu'il vaut mieux passer par un laboratoire ou terminer congelé, manger par un serpent?
Le sens de ma question, c'était donc souris de laboratoire, ça on comprend bien. Est-ce que les primates sont aussi des primates de laboratoire?
Actuellement, l'Europe, en tout cas la France, j'en suis sûr, n'importe pas d'animal qui ne soit pas né de deuxième génération en captivité dans une ferme, ce qui garantit d'une part qu'on peut inspecter la ferme et on peut vérifier comment les animaux sont élevés, et également qui apporte des garanties au niveau sanitaire, puisque étant que primates nous-mêmes, on pourrait éventuellement échanger des micro-organismes, et ce serait pas une très bonne chose.
Parce que j'en viens à la question de Christine, du coup, les chats en revanche, ou les chiens, alors j'ai bien compris, 0,05%, c'est un chiffre qui est extrêmement minime, mais néanmoins, les chats comme le sien, alors c'était il y a 15 ans, mais même demain, là, pour le coup, viennent d'où, en fait?
Ce sont des élevages.
D'accord. Là aussi, ce sont des élevages
Les laboratoires qui travaillent sur des médicaments pour chats ou des vaccins ont leurs élevages de chats ou ça provisionne dans des élevages agréés. Et il faut également que la source soit agréée.
Yvan Balançard, vous vouliez réagir, je vous ai entendu.
Oui, oui. Alors, d'abord, ce que dit Christine, évidemment, c'est très choquant. Et comme je le disais, aujourd'hui, les chats ne sont plus utilisés. Ils l'ont été quand même, il y a pendant très longtemps, notamment en neurosciences comme modèle. Ça n'est plus le cas. Ce que dit Christine, effectivement, et bon, qui remonte quand même entre 15 et 20 ans, aujourd'hui, c'est impossible. En tout cas, si ça l'était, ça serait vraiment l'objet de poursuites pénales. Donc, je comprends très bien son émotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on est malheureusement aujourd'hui, on paye encore les séquelles de ce qui a pu se passer. Je dis pas que ça s'est pas passé. Et je dois dire qu'avant la première directive européenne qui date de 1986, il faut bien imaginer qu'il n'y avait aucune réglementation sur l'expérimentation animale. Donc, effectivement, ces histoires-là, elles ont eu lieu. Et je comprends évidemment qu'elles aient choqué. Et moi-même, le premier, je suis choqué. Après, aujourd'hui, eh bien, on est encore à payer ces séquelles. Je vous donne un exemple très simple. L'année dernière, pour ne pas la nommer, la Fondation 30 millions d'amis a fait courir le bruit qu'un décret complètement imaginaire allait autoriser les laboratoires à voler des chiens à leurs propriétaires. Et, disait l'édito de 30 millions d'amis, c'est le premier pas vers un trafic de chiens volés à l'échelle nationale. Il a fallu quand même que, d'abord les ministères évidemment contredisent, que le GIRCOR, mais même des associations et comme la Fondation 30 millions d'amis, la Fondation Brigitte Bardot, a quand même soulevé la supercherie. Le problème, c'est que ce genre de légende urbaine, ben on en trouve encore tous les jours. Et donc, il faut vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de la transparence, c'est de montrer ce qu'est la recherche aujourd'hui. Et effectivement, ces histoires-là, qui ont pu avoir lieu, en effet, et elles ont eu lieu sans doute dans les années 70, dans les années 80. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est formellement impossible, ne serait-ce que par l'encadrement qui est extrêmement strict, et puis aussi la culture qui a changé. Je pense que la culture et le respect de l'animal, la condition animale, c'est devenu une valeur qui est partagée et qui est grandement partagée au sein de la communauté scientifique.
Et du public aussi très grandement. Sophie, rapidement, avant de retourner au standard.
Oui, toutes les recherches doivent donc être déclarées à des comités d'éthique. Il y a la règle des 3 R, réduire, remplacer, raffiner. Est-ce que cela permet quand même, et puis la promotion des méthodes alternatives, est-ce que cela permet de réduire le nombre d'animaux utilisés en expérimentation animale, puisqu'on entend les associations dire que ça ne va pas assez vite ou ça ne va pas assez loin?
Alors c'est vrai que si on prend sur la dernière décennie, le chiffre n'a pas beaucoup diminué. Alors, on reste toujours avec des souris qui sont bien, bien devant. Les pourcentages ne changent pas beaucoup. Chiens et chats vont plutôt en diminuant, mais les souris ne changent pas beaucoup. Et de ce côté-là, alors, c'est vrai que si on prend les chiffres de 2019, on était à la veille de ce que nous vivons actuellement. Mais en même temps, la population humaine augmente. Il y a aussi des besoins qui changent et qui évoluent. Et rien n'est constant dans cette histoire. Donc, il faudrait trouver un paramètre qui permettrait d'indexer un certain chiffre sur une référence qui permettrait de dire, par rapport au reste des éléments dont on dispose, ça augmente, c'est stable ou ça décroît. Mais pour l'instant, les chiffres bruts n'ont pas décru. Ça, c'est vrai.
On a le temps pour votre question. Elisa, vous êtes dans la Meuse. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Alors, rapidement, dire que l'aspirine, par exemple, n'existerait pas si on s'était fié à l'expérimentation animale, parce qu'elle a eu des effets graves sur les animaux. A contrario, le Vioxx, lui, il a eu des effets nocifs sur l'humain, mais pas sur l'animal. Donc, les résultats des expériences sur les animaux ne sont pas toujours, même pas transposables sur l'être humain. Et il y a quand même beaucoup de médecins, c'est dommage qu'on n'ait pas de contradicteurs, qui sont contre l'expérimentation animale, qui prônent des alternatives comme les cultures cellulaires organoïdes, organes sur puce, modèles virtuels, mais c'est plus cher. Alors en fait, le problème, ce serait peut-être le financement.
Alors est-ce que c'est une histoire? Merci beaucoup Elisa. Est-ce que deux questions Yvan Balançard. D'abord un, oui. Est-ce que effectivement il y a un certain nombre d'exemples qui prouvent que chez l'animal ça n'a pas marché, donc quel intérêt? Et deux, effectivement, est-ce que c'est une question d'argent?
Alors, bon, je vais commencer par la première en disant que l'expérimentation animale coûte beaucoup plus cher que l'expérimentation sur des cultures cellulaires. Ça, c'est un premier point. Le point que mentionnait notre auditrice, c'est le fait qu'il n'y a pas de prédictivité. Moi, ce que je voudrais simplement dire en tant que vétérinaire, c'est que tous les médicaments qu'on utilise chez la vache, le mouton, chez le chat, le chien, chez l'oiseau, tous les médicaments vétérinaires, ce sont les mêmes molécules qu'on utilise chez l'homme. Alors, s'il n'y avait pas de prédictivité, ça voudrait dire qu'il y aurait deux médecines totalement différentes. Or, quand vous traitez l'hypertension de votre chien ou l'hypothyroïdie de votre chat, vous allez utiliser exactement les mêmes molécules. Alors, évidemment, il y a des différences d'espèces. On sait par exemple que le paracétamol est très toxique chez le chat. Donc, il y a quelques spécificités. Et c'est pour ça que dans le cadre des essais précliniques, d'ailleurs, on est obligé d'utiliser plusieurs espèces pour éviter, en fait, de sous-évaluer ou de surévaluer un risque qui aurait été identifié dans une espèce. Mais je crois que dans la majorité des cas, il faut bien garder ça en tête. Et souvent, c'est quelque chose qui ressort avec des slogans comme « Nous ne sommes pas des rats de 70 kilos mm-hmm. ». Bien sûr que l'on n'est pas des rats de 70 kilos. Et en même temps, on voit bien qu'il y a quand même une continuité dans l'évolution, dans les fonctions biologiques principales, qui font que, encore une fois, l'arsenal thérapeutique que l'on utilise aujourd'hui chez l'homme, eh bien, c'est le même, quasiment à 100% que celui qu'on utilise chez l'animal.
Pour terminer, parce que vraiment le temps a tourné, François Moutou, juste cette question de Joseph qu'on n'a pas le temps d'entendre. On a des modélisations qui nous permettraient d'éviter d'utiliser des animaux. Pourquoi ne le fait-on pas ?
On fait les modèles, c'est ce que disait Yvan. En fait, on combine les différentes méthodes, mais le modèle tout seul ne suffira pas. Et simplement, si depuis un demi-siècle, on a fait beaucoup de progrès en biologie moléculaire, en génétique, le monde tel que nous le voyons, ce sont les individus, les populations, les espèces, et les phénomènes qui se passent à ce niveau-là ne sont pas uniquement la somme de ce qui se passe au niveau inférieur.
Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les deux. Merci à tous pour vos nombreuses questions. Et grand merci aussi, on les embrasse, à nos amis d'Aix-en-Provence qui vous a accueillis, Yvan Balançard. Merci à tous.